réponses à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Maître Dominique Amandou, nous recevons ce lundi dans ce studio. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Pour parler, c'est pour parler, bien entendu, des coups et blessures volontaires. Comment définissez-vous cela?
Merci beaucoup, Jody. Nous précisons d'abord que les articles 46 et 47 du Code pénal congolais livre 2 prévoient l'infraction des coups et blessures volontaires. Au terme de la loi, et plus particulièrement, c'est la doctrine qui a le plus enrichi la définition des coups et blessures. Nous définissons les coups et blessures comme le fait de porter ou de faire des blessures sur une personne humaine. Et ces coups et ces blessures doivent être faits dans le but de pouvoir faire du mal à quelqu'un ou de lui faire ressentir une douleur. À travers cette incrimination, on veut bien protéger l'intégrité physique de la personne humaine. Et les législateurs distinguent les coups et blessures simples des coups et blessures aggravées. Oui. Et pour que l'on puisse retenir l'infraction des coups et blessures, la loi exige que l'élément constitutif de cette infraction soit réuni. Il s'agit particulièrement de l'élément moral, de l'élément matériel d'abord, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un acte positif de l'auteur de l'infraction qui est posé.
Oui.
C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'on ne peut pas sous-entendre ou parler de l'infraction des coups ou blessures lorsqu'il s'agit, d'une inaction ou d'une omission, c'est-à-dire que quelqu'un doit poser effectivement un acte matériel. Et il faut qu'il s'agisse d'une personne humaine. Et la loi exige aussi l'élément moral, c'est-à-dire que la personne qui pose l'acte doit avoir connaissance qu'il est en train de poser volontairement un acte pour pouvoir causer une douleur ou pour pouvoir faire du mal à une personne humaine. Donc c'est à partir de ces différents éléments que l'on peut retenir conformément au droit pénal congolais l'infraction des coups et blessures volontaires.
Alors prenons le cas de deux personnes qui se battent pour une raison ou pour une autre, une bagarre éclate quelque part et les deux personnes se donnent des coups mutuellement et à la fin tous les deux se tirent avec des blessures. Dans ce cas, devant un tel cas de figure, maître, comment juger cela?
En principe, on doit analyser l'environnement de ces faits. Lorsqu'il y a eu au départ une dispute verbale et que l'une des deux personnes a commencé par porter des coups et que le deuxième a réagi par exemple pour se défendre, c'est le premier peut être poursuivi pour coups, ses blessures vis-à-vis de l'autre.
Non, mais ils se sont donné des coups, maître, et ils se sont blessés mutuellement.
Effectivement, mais vous comprenez qu'il y a une personne qui a commencé.
Oui.
C'est-à-dire l'autre a agi pour se défendre. Et les coups posés par la deuxième personne qui s'est défendue peuvent rentrer dans le cadre d'une légitime défense, c'est-à-dire une manière de repousser une agression injuste.
Oui. Alors, dans ces cas, quand vous allez porter plainte, quelles sont les preuves? Il faut recourir aux témoins qui étaient là. Les témoins aussi peuvent déformer la vérité.
Les juges vont apprécier.
Oui.
Les juges vont apprécier. Mais s'il y a doute, les juges ne peuvent pas retenir l'infraction.
Mmh.
Effectivement.
Voilà. Et prenons le cas d'un parent qui bat son enfant. Donc, pour le corriger, et que voilà, par mégarde, l'enfant est blessé.
Bon, dans ces cas, on analyse d'abord les degrés de violence. Lorsque les violences ou les actes posés n'ont pas été d'une extrême violence, la jurisprudence reconnaît aux parents ou même aux instituteurs, et parfois on parle même des maris, ça c'est quand même sujet à discussion.
Les maris qui battent leurs femmes.
Oui, bon, il y a une jurisprudence qui reconnaît à ces catégories de personnes ce qu'on appelle les droits de correction disciplinaire pour pouvoir corriger.
Oui.
Voilà, dans ces cas-là, ça s'apprécie. Oui. C'est ainsi que un instituteur ou un père ou une mère qui fouette avec un fouet, qui donne des fessées à son fils ou à sa fille, ne peut pas être poursuivi parce que cet acte est couvert par l'aspect éducatif qui rentre dans l'intérêt de la personne.
Mais si c'est une marâtre qui bat, par exemple, l'enfant de sa rivale,
non, mais la marâtre,
avec méchanceté...
La marâtre, dans ces conditions-là, est en train déjouer le même rôle des parents.
Oui,
mais lorsqu'il y a un degré très élevé de violence,
oui,
et on sent en cela l'intention méchante, là même s'il s'agit des parents, lorsqu'il y a l'intention méchante, il y a un degré extrême de violence, là, cela est punissable.
Voilà, cela est punissable. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Patrick Gabillot, nous appelle des Kindou. Bonjour.
Allô?
Oui, Patrick, bonjour.
Bonjour.
Votre question?
Oui, ma question est la suivante. Je voulais savoir le problème concernant les coups de blessure. Il y a des fois que vous retrouviez dans un milieu où il n'y a pas la sécurité, que vous êtes victime de cet acte de coups de blessure. Je ne sais pas si vous pouvez porter plainte, mais celui qui a causé le tort peut s'échapper. Maintenant, vous allez vous plaindre chez qui et qui va témoigner concernant cette affaire pour qu'on la considère.
Merci Patrick, Maître Dominique.
En principe, lorsque l'auteur de l'infraction arrive à s'échapper, on sous-entend qu'il y a eu un contact direct entre la victime et l'auteur de l'infraction. Si la victime peut identifier l'auteur de l'infraction, la victime se plaint contre l'auteur de l'infraction. Mais si l'auteur n'est pas identifié, la victime peut se plaindre contre inconnu. Mais là, il appartient à la police ou au parquet de mener des investigations à partir de la description et des éléments fournis par la victime ou par des personnes qui ont assisté à l'incident ou à l'événement pour pouvoir déterminer l'auteur. En matière de coups et blessures, en principe, la question de la preuve se pose parce que il n'y a pas de preuves matérielles en dehors des témoignages, les plus souvent dans la plupart des cas. Les témoignages, c'est-à-dire, il s'agit des personnes qui ont vu et qui ont assisté à la bagarre ou à la commission de l'infraction. Ce sont ces personnes qui peuvent être citées comme témoins et le juge va apprécier leur témoignage pour pouvoir conclure ou prendre une décision.
Voilà, si par exemple il y a coup et blessure et a entraîné par exemple une mutilation, une partie du corps qui est coupée, qu'est-ce que la loi réserve comme sanction dans ce genre de cas?
Effectivement, dans ces cas-là, ces coups et blessures, au lieu de tomber sous le coup de l'article 46 qui prévoit en principe les coups et blessures simples, tombent sous le coup de l'article 47 qui parle des coups et blessures aggravés. Et dans ces cas, la sanction va de 2 à 5 ans de prison.
Parce que la personne peut décéder après.
Mais lorsqu'il y a mort d'homme, à ce moment-là, la sanction change aussi. On suppose qu'il y a eu un degré de violence extrême. Et à ce moment-là, la sanction peut aller de 5 à 20 ans de prison. Donc il s'agit là de l'hypothèse des coups et blessures aggravées. Mais encore que dans cette situation-là, il faut que l'on se rassure que l'auteur des coups et blessures n'a pas visé à atteindre la mort de la victime.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Olivier Kabongo nous appelle des Kananga. Bonjour. On vous écoute.
Ah oui, j'aimerais demander ceci. Nous avons déjà remarqué que lorsqu'on arrête un voleur, il avait volé quelque chose de la maison, on commence à le battre avec des coups de machette, parfois avec des bâtons, des choses pareilles. Et dans ces cas-là, si le voleur parvenait à porter plainte, qu'est-ce que le juge peut prendre ou peut faire dans ces cas-là?
Effectivement, nous savons qu'il y a un principe qui dit que nul ne peut se rendre justice. Lorsqu'on a attrapé un voleur et que ce dernier est déjà maîtrisé,
il faut pas
personne n'a le droit de porter des coups et des blessures sur cette personne. Les personnes qui se rendent coupables des coups et blessures sur une personne humaine, même s'il s'agit d'un voleur, ces personnes peuvent être poursuivies et sanctionnées par la loi. Il s'agit aussi des personnes qui s'adonnent aux actes de violence sur l'auteur d'un accident de roulage. Mmh. On voit un chauffeur, il a écrasé quelqu'un ou il y a eu un accident, mais tout de suite, les personnes qui sont aux alentours...
Et quand on attrape les chauffeurs, on les passe à tabac.
Non, ça, ce sont des faits interdits par la loi. Des personnes qui posent de tels actes peuvent être sanctionnés. Le voleur peut se plaindre pour cause et blessure, même s'il est lui-même auteur de l'infraction. Cela ne lui enlève pas la protection qui est reconnue à l'intégrité physique de sa personne.
Il va aller chercher son avocat.
S'il s'agit de coups donnés ou portés sur un voleur dans le cadre de la légitime défense pour repousser une agression, ça c'est autre chose. Ces faits-là sont couverts, mais le plus souvent, on se rend compte qu'on a pris un voleur, parfois il a les mains ligotées, il est totalement maîtrisé et on continue à les tabasser, à les blesser. Ça, c'est un comportement interdit par la loi. Et les auteurs peuvent être punis.
Et quelles sont les sanctions encourues dans ce genre de cas?
Dans ce genre de cas, il s'agit de coups et blessures simples et ces personnes encourent des sanctions qui peuvent aller de 8 jours à 6 mois de prison.
Et où faut-il aller, ces voleurs-là, où peut-il aller se plaindre?
En principe, le voleur peut se plaindre au commissariat de la police le plus proche ou même au parquet.
Même si lui-même aussi...
On peut le prendre et on l'amène au parquet, bien sûr qu'on l'entend, mais s'il identifie dans le groupe des gens qui l'ont fortement blessé, il peut aussi se plaindre sur les champs, même auprès du policier.
Voilà, des questions, des réactions, composez le 081-890-63-94. Boussang nous appelle de Kolwezi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, c'est joli question.
On vous écoute.
Je voudrais poser une question à l'invité. Si, par exemple, lors d'une bagarre, il y a deux personnes qui se battent. Vous, bon, par bonne foi, vous voulez séparer les deux individus qui se battent.
Oui.
Vous venez là, en voulant arrêter la bagarre, quelqu'un par mégarde, en voulant taper sur l'autre, il tape sur vous et il vous blesse gravement. À ce moment-là, l'individu, ça entre aussi dans les cas, il peut aussi porter plainte comme coups et blessures volontaires.
Effectivement, la personne est victime des coups et blessures volontaires, mais ici nous nous trouvons dans l'hypothèse où il y a erreur sur la personne, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction a voulu donner un coup à quelqu'un d'autre et lui
met par erreur le coup.
Voilà. Il y a erreur sur la personne, mais cela n'enlève pas les caractères infractionnels à l'acte. Donc la personne peut se plaindre si elle est grièvement blessée, peut se plaindre et demander réparation auprès de l'auteur de ses coups portés sur lui.
Oui, alors là, mais cela c'était pas prémédité, c'est par erreur.
Non.
D'appréciation, le coup était destiné à une autre personne et puis voilà, il va atterrir peut-être sur la figure de la personne qui venait séparer.
Oui, mais le problème se pose à ce niveau sur le plan juridique. Au départ, la personne qui a donné le coup ne l'a pas fait inconsciemment, a voulu effectivement donner un coup à une personne, mais ce coup est allé sur une autre. Là, il y a erreur sur la personne, mais la volonté dans le chef de l'auteur de donner un coup est établie, et le coup a été porté sur une personne humaine, et il y a des traces de cela. Donc, je ne sais pas si nous saisissons la nuance.
Oui.
Voilà. Dès lors qu'il y a la volonté délibérée de l'agent de pouvoir donner des coups ou de porter des blessures sur une personne humaine, l'infraction est établie, même s'il y a eu erreur sur la personne. C'est le cas de quelqu'un qui quitte chez lui, il dit « Bon, je vais à la recherche des jeudi, dès que je les trouve aujourd'hui, je vais les tabasser.
Oui. »
Mais sur la route, la personne confond jeudi à Marcel et frappe Marcel. Est-ce qu'on va dire que l'infraction n'est pas établie parce que cette personne voulait frapper jeudi et a frappé Marcel? Non.
Non, parce que la volonté, l'intention...
Voilà, l'intention de porter des coups sur une personne. Et là, l'acte a été posé et l'acte est punissable.
Voilà, Rabbi Kyulu nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, jeudi, Daniel Kassama. Bonjour, Maître Dominique. Maître Dominique, moi j'ai voulu savoir, s'il vous plaît. Moi, par exemple, j'ai connu un cas comme ça. J'étais accusé parce que j'étais allé demander mon argent chez un ami. Cet ami-là m'a envoyé chez une autre personne. Et la personne ne voulait pas me donner l'argent. et en commençant de m'agresser, en me défendant, j'essayais de donner des coups de tête à la personne, et il était gravement blessé. Et un grand matin, j'ai vu les policiers venir me prendre, je suis accusé par coup et blessé volontaire. Au moment que c'était pas ma volonté de blesser la personne, on s'était battu. Quand je suis allé là, on m'a accusé et j'étais arrêté pendant 4 jours comme ça. Dans de telles situations, au moment où je n'ai pas commis l'acte avec volonté, comment faire pour ne pas même faire une journée là? Comment faire pour se défendre? Avec quel argument?
Voilà ma question. Merci. En principe, votre réaction tendait à repousser une agression, c'est-à-dire que vous êtes allé, la personne a commencé à vous agresser. Là, cela s'appelle ce qu'on appelle en droit la légitime défense, c'est-à-dire qu'une personne use de la violence pour pouvoir
repousser
une agression injuste, pour pouvoir se défendre. Donc, l'acte que vous avez commis entrerait dans l'hypothèse de la légitime défense. Et en cas de légitime défense, il n'y a pas infraction. L'infraction ne peut pas être retenue.
Et pourtant, il était arrêté pendant 4 jours au poste de la police.
Effectivement, la difficulté aussi est que nos policiers, pour la plupart, n'ont pas la formation requise.
Mais ils l'ont accusé de coups et blessures.
Ils ne savent pas apprécier toutes ces circonstances, mais il faut voir aussi la personne a eu l'occasion de se défendre et de présenter ses moyens de défense pour dire qu'elle était agressée et elle a réagi pour repousser une agression, dans quel cas il se retrouverait dans l'hypothèse de la légitime défense. Peut-être que la personne n'a pas pu aussi se défendre et avancer ses moyens. C'est ça, parce que notre ami nous demande quelle explication.
Oui.
Pouvait-il donner pour sa défense. C'est-à-dire que son acte s'inscrit dans le cadre de la légitime défense. Mais s'il n'a pas pu dire ça pour que l'OPJ puisse apprécier, l'OPJ n'ayant pas tous les éléments d'appréciation, peut conclure à une infraction qu'il a commise.
Et pourtant, je suppose qu'il a dû expliquer ça. Non, c'est parce qu'à Lingaki, à Betanga, là, on a un petit coup de tête. Mais malgré ça, je suppose que l'OPJ va l'incriminer.
Je ne sais pas, on ne peut pas les présumer, mais parce que dans ses dires, notre ami nous dit, il demande quelle explication il peut donner.
Il peut dire
qu'il n'avait pas l'explication à ce moment-là.
Oui.
Je ne sais pas comment la situation s'est passée.
Voilà. Gaston Kimbenza de Kinshasa, bonjour.
Oui,
votre question?
En fait, ma préoccupation est celle-ci, parce que j'ai suivi le maître de vie, il a parlé des temps de conscience pour celui qui veut commettre l'acte. Je me trouve dans un transport public où il y a 2, 3, 4 personnes ivres qui sont en train de prononcer des sottises, des injures qui portent à tête aussi à la bonne vie et mœurs dans le transport public où je suppose qu'il y a des parents avec leurs enfants. En les interdisant, ils ne veulent pas écouter tout ça, ils giflent quelqu'un. Ils sont tellement ivres, je dis bien, ils sont ivres. Est-ce que ces gens peuvent être poursuivis parce qu'ils ont, il y a eu des coups, peut-être sans blessure, mais il y a eu des coups à la personne. Mais ils étaient ivres dans le transport, de deux. Quel comportement le juriste peut conseiller à tout le monde, tout Kinois, tout Congolais, à l'égard de tels comportements? Parce que les réservaires et presque tout le monde, les injures sont à la une dans les lieux publics. Qu'il y ait un jury ou il injurie quelqu'un d'autre, moi ça me gêne personnellement. On les injure partout. Est-ce que quelqu'un peut être traduit en justice à cause des injures qui portent aussi atteinte à la bonne vie et neuf dans les lieux publics? Je voulais savoir. Et dernièrement, lui il parle de légitime défense. Quelqu'un qui veut t'attaquer. Voilà. Il ne pas être juif. Bon, nous n'avons pas les mêmes capacités. Peut-être que nous autres, nous avons fait le sport. En ripostant, toi, tu causes encore un dégât plus grave que ce que lui a posé chez toi quand il t'a attaqué. Est-ce qu'on peut prendre ça comme une vitale de défense ou soit toi, tu peux être plus condamné que lui? C'est ça, mes trois préoccupations.
À la première préoccupation des personnes, il faut d'abord l'état d'ébriété dans un milieu public est interdit par la loi. Il y a une réglementation à la matière qui l'interdit. Mais ces personnes ne peuvent pas se soustraire sur leur inconscience du fait de leur état d'ébriété. Parce qu'on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ce sont ces personnes elles-mêmes qui se sont placées dans cette situation-là. À ce moment-là, cet état ne peut pas valoir.
Alors, comme il a giflé quelqu'un,
peut en tenir compte, c'est peut-être comme circonstance atténuante. Cela peut amener à ce que les juges puissent alléger la peine, mais cela ne peut pas, en tout cas, couvrir l'infraction commise. Ces personnes sont poursuivables et condamnables par la loi. En ce qui concerne le comportement à avoir, lorsque une personne commet une infraction en public, la Constitution et la loi donnent à tout citoyen le devoir de le dénoncer ou de dénoncer cette personne au poste de police le plus proche. Si des personnes sont en train de commettre des infractions qui violent les bonnes mœurs en public et tout ça, qui sont attentatoires aux bonnes mœurs, le chauffeur peut avancer, s'arrêter au poste de police et dire à l'OPJ qui est sur place, dire voilà la situation qui vient de se passer, il y a telle personne à bord de mon véhicule qui pose tel acte infractionnel interdit par la loi. Dans ce cas, il s'agit d'une dénonciation, l'OPJ ou l'officier de police judiciaire ou le policier qui est là peut se saisir d'office de ces personnes et les entendre et ouvrir un dossier à leur charge. En ce qui concerne la légitime défense doit être proportionnée à l'attaque. Lorsqu'il y a disproportion, la personne risque de subir la rigueur de la loi, c'est-à-dire qu'on peut arriver à la condamner et dans ces cas-là, vu les circonstances de la commission de l'infraction, les juges peuvent tenir compte des circonstances atténuantes en faveur de cette personne. Ce qui veut dire que lorsque nous voulons réagir, nous devons nous rendre compte de l'attaque et de la riposte.
C'est pas que la riposte soit disproportionnée.
Voilà, d'une personne qui a sur lui une arme et qui veut riposter, par exemple, à une violence d'un chégué, un petit garçon, et qui tire dessus. Okay. Là, vous sentez directement qu'il y a disproportion.
Voilà, nous avons trois auditeurs en ligne. Urbain Chimanga de Goma, Jean Kitambala de Kinshasa et Kefa Dumbandaka. Urbain, bonjour. Urbain, vous êtes en ligne depuis Goma. Bonjour. Voilà. Malheureusement, désolé. Jean Kitambala de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Ok. Ma question est la suivante. Est-ce qu'en droit pénal, les sanctions collectives sont prévues? Puisqu'il y a deux fois, on peut tabasser quelqu'un dans un quartier donné. Comme les auteurs sont connus, on va prendre tout le monde. On va prendre tout le monde pour les sanctionner. Est-ce que c'est prévu en droit pénal? Ça, c'est la première préoccupation.
Oui.
La deuxième préoccupation, il y a un conflit entre groupe A et B. Groupe A a tué un membre de groupe B. Est-ce que le groupe B peut prendre une arme et tuer pour que la situation redevienne à la normale? Voilà les deux préoccupations.
Merci beaucoup, Jean. Je précise qu'il n'y a pas de sanctions collectives en droit pénal. La responsabilité pénale est individuelle. Lorsqu'il y a eu des infractions commises par plusieurs personnes et qu'on arrive à mettre la main sur toutes ces personnes, on doit les juger en tenant compte de chacun et des actes qu'il a posés. Et lorsqu'on prononce la sentence ou la décision, on ne dit pas, vous êtes tous condamnés. On dit, telle personne est condamnée à telle peine. Telle personne est condamnée à telle peine. Telle personne est condamnée à telle peine. Donc chacun, en raison de sa responsabilité, a une peine qui le concerne. C'est pour cela même qu'on voit qu'il y a des infractions commises par plusieurs personnes et qu'on se demande comment tel est puni à 10 ans, l'autre est puni à 5 ans, l'autre est puni
à 2 ans.
Voilà. Donc, c'est-à-dire que la responsabilité est individuel en matière
d'autres
pénale.
D'autres sont aussi acquittés.
Il y a d'autres aussi qui sont acquittés. C'est pour dire que la responsabilité pénale est individuelle. En ce qui concerne
le conflit entre
le groupe A et B, si un groupe a tué quelqu'un dans un autre
groupe
et l'autre n'a pas le droit d'aller tuer, nul n'a le droit de se faire justice. Donc, lorsqu'il y a pareille situation, les victimes doivent se plaindre devant les autorités établies pour que justice soit faite. Nul n'a le droit de se faire justice.
Il n'y a pas de match nul. Hein. Donc,
dit qu'on a tué chez nous,
et on va
nous,
aussi,
nous allons tuer là-bas. Aussi tuer.
Ouais.
C'est ça, c'est des pratiques qui ont eu lieu dans l'ancien temps, il y a très longtemps, ce qu'on appelle couramment la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, la justice est un attribut de souveraineté de l'État. Il n'y a que l'État à travers les institutions établies qui peut rendre justice.
Voilà, terminons avec la question de Kefa depuis Mbandaka. Kefa, Mbote.
Mbote, papa Daniel, poste madame Moussara.
Mon tout n'a pas été abonné.
Bon, il arrive des fois que moi, dans la classe, dans la salle de classe, je suis bavard, et puis le professeur a dit que je suis un peu plus de Namoutou. Et c'est le professeur qui a dit que je suis dans l'État.
Maître Dominique.
En principe, Mibeko et Bongi, c'est que ceux qui m'ont là, qui sont à Béti, moi, pour na. Kobongisa ezaleli na epote mwana azongela lisusu makambo na bakoki ko kangaete mekasi esengeli
molakisi mwana pota na moto
esengeli molakisi a tenir compte na makasi ya mwana apesa ye correction oyo ekoki akoki ko beta ye kolekate soki alekisi wana akoki pe ko kanga
wana baboti ya mwana esengeli ba bakene ko funda ye na bazuzi
voilà.
Voilà, Kefa, merci beaucoup depuis Mbandaka, Mokolo Elamu.
Merci, papa.
Mais ce qu'on conseille, c'est que les instituteurs et les enseignants recourent à d'autres méthodes pour pouvoir corriger les enfants et leur donner d'autres sanctions disciplinaires que des coups et blessures, qu'ils ne puissent pas recourir aux coups et blessures pour corriger les élèves.
Maître Dominique Amandou, de l'ONG Avocats sans frontières, je vous remercie.
Merci, jeudi.